Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Jacques Delongeau. Mais d'abord, une courte présentation, parce que tout le monde ne sait pas qui est Jacques Delongeau. Eh bien, c'est un prêtre catholique de Paris, président de la faculté de Notre-Dame. Vous savez qu'il y a une faculté de théologie ici même, au Bernardin. Il n'y a pas que des conférences grand public, il y a une faculté dont il est président. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Il est prêtre du diocèse de Paris, ordonné en 1990. Et la particularité qui me plaît beaucoup, qu'il est ingénieur civil des mines. Ça ne me déplaît pas du tout. Personnellement, il y a un petit peu le même parcours. Vous avez beaucoup de tellement de diplômes que je ne vais pas tous les dire. Je terminerai par doctorat canonique en théologie et institut votre travail à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, qui est important. Vous avez un parcours pastoral très riche, vicaire à Notre-Dame de la Croix dans le 20e, à l'Immaculée Conception dans le 12e. Puis adjoint du supérieur de la maison Sainte-Thérèse à Bruxelles, supérieur de la maison Saint-Augustin, c'est l'année de fondation qui permet d'entrer vraiment au séminaire, et surtout président de la faculté de Notre-Dame, membre du conseil du séminaire de Paris et du comité de direction du collège des Bernardins, beaucoup d'autres choses, et vous êtes encore enseignant à la faculté Notre-Dame. Donc vous avez écrit en particulier dans le domaine de la morale, amour, mariage, sexualité d'après la Bible, les héritiers sans testament éduqués pour un monde ouvert. Vous êtes très ouvert aux questions de bioéthique, en tout cas de morale aujourd'hui, qui sont très importantes. Eh bien, nous vous en attendons beaucoup maintenant de votre regard de prêtre catholique sur Jésus.
Voilà, merci beaucoup. Ça va, on entend. J'ai plutôt le défaut de parler trop fort. Donc, si je vous casse les oreilles, hein, vous me prévenez. Alors, ce n'est pas très facile pour un chrétien de parler de Jésus en une demi-heure. Je vais essayer d'être synthétique, d'autant plus que beaucoup de choses... Je vais dire exactement ce que j'avais prévu de dire. Vous allez voir que beaucoup de choses rejoignent exactement ce que vient de dire le rabbin Philippe Haddad. À commencer par être chrétien... C'est adhérer au témoignage, et vous avez employé exactement le même terme, rendu à Jésus de Nazareth, et qui sont rassemblés dans cette collection d'écrits que nous appelons le Nouveau Testament. Voilà, ces écrits sont divers, tant par leur forme littéraire que par leur contenu. Ce sont donc des témoignages, et vous savez qu'un fait n'est crédible que sur la base de plusieurs témoins, et donc il y a plusieurs témoins, qui témoignent donc de leur foi en Jésus, donc Christ. Alors, les écrits du Nouveau Testament, ça a été très bien dit, transmettent la prédication des apôtres qui naît de la foi et qui est en vue de la foi. Donc on est vraiment, ce sont des écrits qui sont faits pour la prédication chrétienne et l'annonce de l'Évangile. Mais à travers ces récits et ces écrits divers, donc ceux de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, il y a les différents traits de Jésus qui ressortent et qui tracent une figure précise, identifiable. Alors, quelques-uns de ces traits. D'abord, Jésus est un personnage historique, dont la naissance et la mort sont exactement situées dans le temps par les récits évangéliques, à partir des règnes des empereurs et du gouvernorat, des gouverneurs romains. Jésus n'est pas un héros mythologique. Jésus est juif, de la tribu de Judas, de la descendance de David, bien qu'il ait grandi dans une obscure bourgade de Galilée appelée Nazareth. C'est l'un des embarras des évangélistes. Comment est-ce qu'un descendant de David peut être issu de la bourgade de Nazareth ? Alors j'ai écrit, je dis exactement ce que j'ai mis, alors on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est sans doute vous qui avez raison, que Jésus appartient à un milieu de juifs orthodoxes ou observants, je ne sais pas comment dire, et qui le restera toute sa vie. À l'âge adulte, Jésus devient disciple de Jean, dit le Baptiste, puis il se sépare de lui, il commence alors à prêcher la venue prochaine du royaume de Dieu, et il appelle à la conversion. Il réunit des disciples autour de lui pour les former et les associer à sa prédication. Et il appuie sa prédication sur des signes. Alors, d'une part, des guérisons, des signes tels que la multiplication des pains, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana, la marche sur les eaux du lac de Galilée, la pêche miraculeuse. Il ne s'agit pas de miracles au sens simplement d'action d'éclat, mais vraiment des signes, des gestes, des actes qui ont une signification. Il provoque des polémiques dans le milieu des pharisiens sur sa manière d'interpréter et de vivre la loi. Et finalement, au cours de l'une de ses montées à Jérusalem pour la fête de Pâques, il est arrêté par les grands prêtres qui le remettent aux autorités romaines et Pilate, le gouverneur romain, le condamne à mort et lui fait subir le supplice que les Romains réservent aux dissidents, aux révoltés. Dans une ambiance qui n'est pas sans analogie avec ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions de notre monde, nous dirions aujourd'hui que Jésus a subi le châtiment, la mort réservée aux terroristes, aux radicalisés de ce temps-là, et qui ne sont pas citoyens romains, la mort lente par crucifixion. Jésus est vraiment mort, il n'a pas fait semblant, il a été déposé dans un tombeau et enveloppé dans un linceul. Ensuite, l'événement capital fondateur de la foi chrétienne et au fond le contenu essentiel de la prédication des apôtres est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait entrer dans sa gloire. Il n'y a aucun témoin de la résurrection. Personne n'a vu Jésus tout d'un coup sortir du tombeau. La résurrection est attestée d'une part par le tombeau vide, d'autre part par les apparitions de Jésus à ses disciples. Dans ces apparitions, Jésus veille, du moins les évangélistes donc, écrivant, enfin témoignant de la foi en Jésus, Jésus veille à montrer qu'il n'est pas un fantôme, qu'il n'est pas un esprit, mais que c'est bien lui en chair et en os. Ces apparitions durent un temps, puis cessent. Les chrétiens croient que Jésus ressuscité est entré dans la gloire de Dieu, et on le dit dans un langage métaphorique, il est assis à la droite du Père. Et Jésus ressuscité communique à ses disciples l'Esprit Saint qui habitait en lui en plénitude, qui sont les arts des biens de la vie éternelle et la force nécessaire pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde et la fin des temps. Alors donc le Nouveau Testament est écrit à la lumière de la foi en Jésus ressuscité d'entre les morts et glorifié à la droite du Père. Tous les événements historiques sont relus à cette lumière-là. Alors, qui est donc Jésus d'après le Nouveau Testament ? D'abord, il est le Messie, ou le Christ en grec, celui qui est annoncé par les prophètes, qui est attendu par Israël. Cependant, il n'est pas un nouveau David venu établir un royaume de Dieu terrestre. Son projet n'est pas théologico-politique. Il est le serviteur souffrant, annoncé par Isaïe, qui enlève le péché du peuple d'abord et celui du monde. Le royaume de Dieu qu'il inaugure est au milieu du monde, mais il n'est pas de ce monde. Il est présent et en même temps il est eschatologique. Lui-même, Jésus, s'appelait volontiers « fils d'homme » en référence à la prophétie de Daniel au chapitre 7. Et ses disciples le reconnaissent et le confessent comme « fils de Dieu ». Ils ont été frappés par la manière singulière dont Jésus, dans sa prière, appelait Dieu d'une manière familière. Et c'est un terme araméen qui a été gardé, « Abba ». C'était tellement frappant que le Nouveau Testament écrit en grec a gardé cette expression araméenne. Jésus appelle Dieu Abba, Père, Papa. Et Marc introduit son évangile par ces mots, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui est annoncée de Jésus, Jésus de Nazareth, qu'on confesse comme Christ et comme Fils de Dieu. Et la profession et en écho à ce commencement de l'évangile de Marc, il y a la profession de foi du centurion, un romain, un païen, témoin de la mort de Jésus à la fin de l'évangile de Marc. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Cette expression fils de Dieu
signifie que pour les auteurs du Nouveau Testament, Jésus est davantage qu'un prophète. Et il est supérieur aux anges. Ce n'est pas un ange qui est venu simplement sur terre. Je cite ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il est le resplendissement de la gloire de Dieu et l'effigie de sa substance. Ou alors Saint Jean, dans son prologue, Jésus est le Verbe fait chair, le Logos qui est de toute éternité auprès de Dieu, qui est Dieu et par qui tout a été fait. Pour Jean, pour sa foi, il est l'unique engendré du Père qui a planté sa tente parmi nous pour nous apporter grâce et vérité. Enfin, pour Paul, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Finalement, tous les auteurs du Nouveau Testament confessent Jésus comme le Sauveur, non seulement de son peuple Israël, mais de tous les hommes et de la création tout entière. Jésus est celui qui est envoyé de Dieu pour libérer la création soumise au pouvoir du péché, du mal sous toutes ses formes et de la mort. Vous savez que les premiers chrétiens aimaient bien le terme grec poisson, ictus, parce que ictus, c'est Jésus Christ, fils de Dieu, sauveur. Et Jésus dévoile ce pourquoi Dieu a créé le monde, ce pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire en vue de la participation de l'humanité à sa vie même. Dieu crée une multitude de créatures raisonnables, rationnelles, pour que nous puissions un jour participer à sa propre béatitude, à sa vie, à sa lumière, à son bonheur. Et les mystiques chrétiens sont ceux qui déjà ont comme une première perception de cette participation mystique à la vie même de Dieu. Alors le Messie est venu dans l'humilité de l'incarnation, dans la pauvreté de la crèche, dans l'abaissement de la croix, et les chrétiens attendent sa venue dans la gloire à la fin des temps. Jésus qui reviendra dans sa gloire. Toutes les images que nous en formons sont forcément mythologiques, hein. On est au-delà des images. Mais Jésus reviendra dans la gloire, il sera le juge des vivants et des morts, et le critère du jugement sera la charité. Hein, c'est le critère essentiel. Hein. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà le témoignage du Nouveau Testament. Ensuite, l'annonce chrétienne, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, s'est répandue dans l'Empire romain et au-delà de ses limites. Et elle a été affrontée à la philosophie grecque. La jeune Église chrétienne a dû défendre sa foi en la divinité de Jésus, en la divinité de l'Esprit-Saint et en même temps sa foi, sa profession de foi en un strict monothéisme. Comment mettre les deux ensemble ? Il y a eu un immense effort d'intelligence de la foi, de formulation et de défense de la foi chrétienne à l'aide de termes issus de la philosophie grecque qui a abouti à la constitution d'une doctrine et à la proclamation de symboles de la foi. Contre le trithéisme, l'Église affirme sa foi monothéiste. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu, pourtant il y a un seul Dieu. Dieu est unique, Dieu est un. La différence des personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, ne divise pas l'unité divine. On emploie pour ça parfois une formule approximative, Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Ça veut dire qu'il est en lui-même relation, en lui-même amour. Contre l'arianisme, qui pense sauver le monothéisme en affirmant que le Dieu unique, c'est le Père, que le Fils et l'Esprit sont ses premières créatures et qu'on les appelle Dieu seulement par analogie, l'Église professe que les trois sont également Dieu. Et là, un terme également a été forgé pour le dire, le terme de consubstantiel, le Fils est consubstantiel au Père. contre toutes les formes de modalisme qui pensent sauver le monothéisme en expliquant que Père, Fils et Esprit sont trois visages sous lesquels Dieu se manifeste à nous, ou trois modes de sa présence auprès de nous et de son action envers nous. Le christianisme confesse que Père, Fils et Esprit sont réellement distincts. Et pour cela, un terme est emprunté à la philosophie grecque, tout en transformant le sens, qui est le terme d'hypostase, ou en latin, le terme de persona. Et tout le personnalisme est issu un peu de cette élaboration théologique du terme de personne. Il y a un ordre dans la Trinité. Le Père est la source de tout. Seul, il est inengendré. Le Fils est engendré du Père de toute éternité. Les termes que nous employons sont évidemment métaphoriques. Le Père engendre le Fils, il n'a pas d'épouse. Le Père engendre le Fils de toute éternité. L'Esprit procède du Père par le Fils ou du Père et du Fils. En Jésus de Nazareth, cet homme historique dont j'ai parlé, selon la foi chrétienne, est ainsi la parole unique de Dieu qui l'exprime parfaitement, ou ce Fils éternel du Père, qui assume complètement une nature humaine. Et donc tout le problème, ça a été de dire comment comprendre le lien entre l'humanité et la divinité de Jésus. Comment défendre la vérité et la plénitude de la divinité de Jésus, la vérité et la plénitude de son humanité, et enfin l'unité de sa personne qui n'est pas divisée. Et donc, la foi chrétienne veille à ce que l'humanité de Jésus ne soit pas dissoute dans la divinité. Jésus n'est pas le Dieu des chrétiens, comme Allah peut être le Dieu des musulmans, vous voyez, c'est bien le même Dieu. Comment est-ce que Jésus, c'est pas un Dieu qui s'est promené sur terre, il est vraiment homme, il est un homme, il est l'un d'entre nous, vraiment l'un d'entre nous. Mais en même temps, la foi chrétienne veille à ce que la divinité de Jésus ne soit pas oblitérée par son humanité. Jésus est vraiment Dieu, il n'est pas un homme adopté par Dieu ou déifié, il est Dieu par nature. Vous voyez, j'ai beaucoup dit dans cette partie de mon exposé, l'Église s'est défendue contre ceci, contre cela. Dès qu'il s'agit de Dieu, cela dépasse, Dieu est vraiment, même le mot, on a du mal à le prononcer, puisque dès que nous disons le mot Dieu, on devrait s'incliner, Dieu est au-delà, il est le Très-Haut, il est celui qui dépasse toutes les catégories de notre intelligence. Et c'est pourquoi lorsque Dieu se fait connaître, pour notre intelligence, cela ne peut s'exprimer que dans des termes paradoxaux. Voilà, paradoxaux. Parce que Dieu dépasse notre intelligence. Dieu est mystère. Et au fond, tout l'effort d'une théologie chrétienne sur le Christ, c'est de préserver l'ampleur du mystère. Le jour où je crois avoir compris qui est Dieu, ce n'est plus Dieu, mais une production simplement de mon esprit. Enfin, je terminerai par là. Qui est le Christ maintenant pour un chrétien dans sa vie de tous les jours? Donc, il est fondamental pour un chrétien de croire que Jésus est vivant, qu'il est présent dans son Église, qui est son corps, qu'il est agissant dans l'annonce de la parole et la célébration des sacrements. De même que Jésus, il y a 2000 ans, guérissait, pardonnait les péchés, il continue toujours, aujourd'hui, par les gestes liturgiques, à guérir, à relever, à donner la vie. Un chrétien entretient une relation personnelle au Christ. Dans la prière, le chrétien contemple le visage du Christ, à la fois le visage douloureux du crucifié et le visage rayonnant du ressuscité. Le chrétien médite ses paroles, contemple ses actes, s'en imprègne. Il implore sa miséricorde. Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié. Le chrétien se sait pécheur. Le pape François n'arrête pas de comparer l'Église à un hôpital. Nous savons bien que nous ne sommes pas parfaits. L'actualité nous le rappelle suffisamment. Mais voilà, nous nous tournons vers le Christ Seigneur comme des pécheurs qui attendons sa miséricorde. L'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, œuvre dans le cœur des croyants pour nous rendre intérieurement semblables à Jésus. Nous croyons qu'il y a ce travail intérieur de l'esprit qui nous rend intérieurement semblables au Christ. Il n'y a pas, disons, d'imitation extérieure, mais une transformation intérieure. Par le baptême, nous croyons que nous devenons comme fils adoptif du Père dans le Fils unique. Mais ce nous reste ensuite, tout au long de notre vie chrétienne, à grandir dans cette vie et dans cette obéissance filiale. Car le chrétien, comme un juif et un musulman, fondamentalement cherche à faire la volonté de Dieu, à lui être obéissant, à lui être soumis. Et pour nous, Jésus est celui qui est tout entier soumis à la volonté du Père, d'une obéissance non pas servile à une loi qui s'impose, mais d'une obéissance filiale, une adhésion intérieure à la volonté de son Père. Et nous nous efforçons, comme chrétiens, d'entrer dans cette obéissance de Jésus à son Père. Avec Jésus, par le don de l'Esprit dans l'Église, le chrétien cherche ainsi à faire en tout la volonté du Père et à faire monter vers Dieu son action de grâce, son Eucharistie. Par l'Esprit Saint, le chrétien veut faire de sa vie un culte spirituel, comme dit saint Paul, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ainsi, la spiritualité chrétienne est une spiritualité d'imitation du Christ, de suite du Christ, et la morale chrétienne est une morale de la charité. Voilà, je vous remercie.
Merci, Père de Longeau, pour une présentation extrêmement synthétique. Je pensais même que vous alliez parler un peu plus.
Ah ben, j'ai fait juste une demi-heure, si j'ai bien compté.
Non, un peu plus.
Je peux continuer, si vous voulez.
pas tout à fait une demi-heure. Vous avez été très sobre. Mais je crois que vous avez donné l'essentiel sur ce témoignage de ce que c'est que d'être chrétien. Ah, pardon. Merci, Père de Longeau, d'avoir si brièvement présenté toute la richesse de la personne du Christ et toute la richesse de l'agir chrétien, avec beaucoup de ferveur pour montrer que c'est agir dans l'Esprit Saint, faire de sa vie un sacrifice vivant, et tout en même temps en donnant un aperçu extrêmement synthétique de la lutte pendant des siècles pour préserver ce mystère chrétien, Dieu un, en même temps le grand amour, cette communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, préserver à la fois l'unité de la personne et les deux natures du Christ. Ce sont des siècles de combat, vous savez qu'il y a eu beaucoup de martyrs, ça a été une très très grande aventure, tout ceci, et c'était déjà avant même qu'arrive Mohammed dans l'histoire de la spiritualité de notre planète.